Je voudrais que nous commencions cet entretien par un sujet brûlant, récurrent, la laïcité. Comment la définiriez-vous ?
La laïcité repose sur trois piliers. C'est d'abord, en premier lieu, l'indépendance de l'État à l'égard des religions et des convictions. Ensuite, la liberté de conscience et surtout la non-discrimination pour raison de religion. Mais cela concerne aussi bien les homosexuels qui veulent se marier et les citoyens qui veulent mourir dans la dignité. C'est un combat pour la liberté de conscience analogue à celui qu'ont mené les libres penseurs qui voulaient mourir sans recevoir les saints sacrements. La non-discrimination doit profiter à tout le monde. La laïcité impose en fait la liberté. C'est ce qu'a refusé le catholicisme officiel qui s'est battu contre le divorce au XIXe siècle, contre la loi sur l'avortement au XXe siècle, contre le mariage homosexuel au XXIe siècle et demain contre la loi sur la fin de vie. La France croit être laïque par essence et se dédouane souvent d'une réflexion sérieuse sur la laïcité.
La laïcité est un mot valise, comme la démocratie. Qu'en pensez-vous ?
Oui. Vous avez raison, la laïcité a été tour à tour positive, restrictive, falsifiée, exigeante à la française, de combat, d'intégration, stricte, apaisée ou encore républicaine. Cet enrichissement suspect est pour beaucoup la preuve que plus personne ne sait très bien en quoi consiste le principe de laïcité qui s'est forgé au cours des siècles en France. Mais dans les esprits les mieux disposés à défendre ce principe, une confusion s'est installée progressivement entre diverses notions. Laïcité, neutralité religieuse, séparation des églises et de l'État, défense de l'égalité homme-femme et de la mixité. La laïcité, c'est la rupture avec l'ordre transcendantal. Cette approche reprend une idée en germe dans les principes révolutionnaires de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui mettent l'accent sur la souveraineté de la nation et du citoyen, croyant ou non. Mais, dans une société marquée par l'hégémonie séculaire de l'Église catholique, ce changement de modèle prendra plusieurs décennies pour s'imposer.
Quelle est la date fondatrice de la laïcité ?
La date fondatrice de la laïcité est décembre 1905.
Qu'est-ce que la sécularisation ?
La sécularisation, c'est tout simplement la séparation des églises et de l'État. C'est ce qui fonde en droit la notion de modernité. Un État moderne est un État qui prend ses distances avec les religions.
Marc Vella, pianiste nomade, va nous accompagner tout au long de cet entretien. Quels sont les grands courants qui traversent aujourd'hui la laïcité ?
Jean Bobereau historien et sociologue, spécialiste de la laïcité, distingue 7 laïcités différentes, dont les 4 premières s'affrontaient déjà en 1905. La laïcité antireligieuse. Ce courant était représenté par le député socialiste Maurice Allard, qui déclara, lors des débats à la Chambre des députés, « Ce que nous poursuivons, c'est la lutte contre l'Église qui est un danger politique et un danger social. » On retrouve cette tradition aujourd'hui dans la ligne de Charlie Hebdo ou dans la posture de Michel Onfray qui a écrit le traité d'athéologie. Et puis, il y a la laïcité gallicane. La religion est tolérée tant qu'elle reste sous le contrôle de l'État. Par ailleurs, la liberté de conscience est acceptée, mais elle relève de l'intime et ne doit pas empiéter sur l'espace public. Cette approche de la laïcité fut défendue par le radical Émile Combes. On la retrouve aujourd'hui dans le courant républicain et chez les partisans de l'interdiction du voile dans les lieux publics. La laïcité libérale et individualiste. L'État est indifférent aux groupes religieux et fait appel à la liberté de conscience personnelle. Elle est au cœur de la loi de 1905, on la retrouve aujourd'hui avec la libre pensée, laquelle défend les signes religieux ostensibles à l'université. La laïcité inclusive, accommodante, elle était jadis incarnée par Aristide Briand et Jean Jaurès, qui voulaient donner les églises, appartenant à l'État depuis la Révolution, aux institutions religieuses, considérées comme des intermédiaires nécessaires entre les individus et l'État. Des positions que l'on retrouve aujourd'hui dans la Ligue de l'enseignement qui souhaite tenir compte des caractéristiques des religions en proposant par exemple des repas sans viande dans les cantines. La liberté concordataire d'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle a été annexée par l'Allemagne entre 1871 et n'est redevenue française qu'en 1919, donc après l'adoption de la loi de 1905. Pour faciliter ce retour, l'ancien système, dit concordataire, a été maintenu à titre temporaire. Il dure encore et certains souhaiteraient le voir étendu à l'ensemble du pays. La laïcité ouverte, elle est prônée par les institutions religieuses qui défendent une utilité sociale des religions. Par exemple, l'Église catholique qui voudrait inclure dans la laïcité la loi naturelle de la famille, débat vu lors du mariage pour tous. Et enfin, la laïcité identitaire, initiée par Nicolas Sarkozy, qui parlait plutôt de laïcité positive. Elle est aujourd'hui affichée par une partie de la droite et de l'extrême droite. Ce courant se réfère aux valeurs du christianisme comme à des repères de la nation. Il entend valoriser les racines chrétiennes de la France, poser des limites aux manifestations religieuses de l'islam. Il s'est manifesté contre le mariage entre personnes de même sexe et voit d'un mauvais œil les débats relatifs à l'euthanasie. Vous le voyez, comme pour la démocratie, autant d'idées sur la laïcité qui sont prises et reprises par un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
J'aimerais que vous nous parliez maintenant de la laïcité à l'école.
L'école est un lieu décisif, parce que dans l'école publique, laïque, républicaine, sont accueillis des enfants de toutes les origines. Il est clair que l'exigence la plus salvatrice pour cet accueil, c'est la laïcité. À l'école, on enseigne des connaissances et des principes universels. On ne fait pas de prosélytisme religieux. Nous avons un devoir d'éducation. La personne est une chose. La conviction qu'elle adopte en est une autre. Une des vertus majeures de la laïcité est d'éduquer les élèves à la distance à soi, une propriété essentielle de la conscience humaine qui est aussi source de tolérance. Lorsqu'on parle laïcité à l'école, comment ne pas évoquer l'affaire du voile ? Il faut remonter en 1989, quand le Conseil d'État a dit que les élèves pouvaient porter des signes religieux à condition toutefois de ne pas perturber le déroulement de la classe ou de faire du prosélytisme. Mais l'éducation nationale n'a pas su appliquer cette décision. elle a donné de mauvaises directives aux professeurs, quitte à les mettre dans des positions difficiles. La circulaire Bayrou les a poussés à interdire eux-mêmes le foulard discret. Ces affaires se sont finies au tribunal administratif, qui souvent ont ordonné le retour des jeunes filles en classe. Ce fut un choc pour l'école, car les enseignants perdaient la face. Cette période est marquée également par la guerre civile en Algérie, qui a contribué à politiser la question du foulard. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001 et le second tour de l'élection présidentielle en 2002. Le président Chirac a cependant créé la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Mais le président Sarkozy l'a supprimée et a fait de la laïcité une valeur réactionnaire. Le Haut Conseil à l'intégration, confié à des personnalités peu progressistes, a donné des avis sur la laïcité, alors que la laïcité concerne chacun de nous et qu'elle ne se réduit pas à l'intégration. La laïcité est en quelque sorte un idéal vers lequel on doit tendre.
Quels sont les domaines concernés aujourd'hui par le principe de laïcité ?
Notre pays se métisse de plus en plus et nous voyons apparaître dans les services publics des demandes diverses. Des femmes ne veulent être accouchées que par des médecins de même sexe, des demandes de repas rituels apparaissent, de même que des lieux de prière et de respect des traditions funéraires. Or, la loi ne prévoit rien. Nous n'avons à disposition qu'une charte des usagers qui n'a aucune valeur légale et qui simplement prévoit que les services doivent s'efforcer dans la mesure du possible de satisfaire les besoins des usagers. Ce n'est pas grand-chose car les responsables peuvent toujours s'appuyer sur le fait qu'ils ont essayé mais qu'ils n'ont pu y parvenir. La laïcité est impactée par plusieurs problèmes. Les cantines scolaires tout d'abord. La demande de plus en plus forte de certains parents qui réclament des repas rituels pour leurs enfants. Halal, kasher par exemple. Que dit la loi ? Pas grand-chose. Il est vrai qu'en 1905, le législateur avait d'autres préoccupations en tête que de s'occuper des services de restauration. Les enfants ne sont pas tenus de prendre leur repas à l'école. C'est un service facultatif offert aux familles par les municipalités. À ce titre, elles peuvent accepter ou non de servir des repas rituels, à condition toutefois de prendre en compte toutes les convictions religieuses. Vous voyez la complexité du sujet et la difficulté de mise en œuvre. Ne pas exiger un coût supplémentaire aux familles pour ce service. Mais qu'en est-il des options spirituelles ? Rien n'est prévu par la loi. Même chose pour les végétariens, par exemple. Devant la multiplicité des demandes, beaucoup de municipalités ont renoncé à proposer des repas de substitution dans les cantines scolaires. Second sujet sensible, les piscines. Des femmes, souvent de confession musulmane, demandent à bénéficier de créneaux spécifiques pour aller se baigner. Là encore, les municipalités peuvent accéder à ces requêtes à condition que ces demandes ne portent pas atteinte au fonctionnement du service public, que les règles de sécurité et d'hygiène soient respectées, de traiter de la même manière toute demande émanant d'autres groupes spécifiques. Si les municipalités émettent un avis défavorable, elles doivent le notifier par écrit. Troisième sujet, le financement des cultes. L'article 2 de la loi de 1905 est très clairement explicité. La République ne rémunère, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Quand le législateur affirme par ailleurs que la République ne reconnaît aucun culte, cela ne veut pas dire qu'elle les ignore, mais qu'elle les place tous sur le même pied d'égalité. Depuis 1905, les communes ont en charge l'entretien, la conservation des églises, à l'exception des dépenses d'éclairage et de chauffage pendant les offices. Beaucoup d'organismes cultuels se sont constitués en association, loi de 1901. Mais le Conseil d'État est très vigilant et veille au strict respect de la loi. Ainsi, il a reconnu valide une aide à l'installation d'un orgue dans une basilique, s'appuyant sur le fait que cet instrument pouvait être utilisé pour des concerts ouverts à tout public, et que par ce biais, l'offre touristique n'en serait que meilleure. Il a validé également une subvention pour un ascenseur, réservé aux personnes handicapées dans une cathédrale, pour les mêmes raisons. Plus problématiques sont les mosquées. il est difficile d'accepter que les fidèles musulmans soient obligés de prier dans la rue, ce qui est interdit, ou dans les caves, ce qui est indécent. La municipalité de Montreuil a été sanctionnée pour avoir mis à disposition un terrain pour l'édification d'un lieu de culte pour l'euro symbolique, ce qui contrevient à l'article 2 de la loi de 1905. Le débat reste ouvert, mais il faudra que la République se donne les moyens de légiférer pour que la seconde religion de France trouve la place qu'elle mérite dans notre société.
Un certain nombre de contre-vérités apparaissent. Pourriez-vous nous éclairer sur quelques-unes de celles-ci ?
Voici quelques exemples de contre-vérités. Les manuels scolaires affirment que l'école en France est gratuite, laïque, obligatoire. Ce stéréotype reprend un slogan républicain de la fin du Second Empire, jamais appliqué. En 1881-1882, l'instruction est devenue obligatoire. L'école publique, gratuite et laïque. Contestée à maintes reprises par certains laïcs, la liberté de l'enseignement a toujours existé. Jules Ferry en fut partisan pour ne pas aboutir à ce qu'il appelait une religion laïque d'État. La République est une et indivisible, autre cliché faux. Affirmé de manière péremptoire. L'article 1 de la Constitution de 1793 proclamait la République une et indivisible. Pour la Constitution actuelle, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle respecte toutes les croyances. L'indivisibilité inclut la diversité. Et les adjectifs démocratiques et sociaux rarement cités constituent des caractéristiques essentielles de la République française. Dernier exemple, le suffrage universel aurait existé en France dès 1848 avant les autres pays démocratiques. Il a été en fait instauré tardivement en 1944-1945. Quel rapport avec la laïcité ? Le fait que celle-ci a été souvent invoquée pour justifier le refus du vote des femmes considérées comme soumises au clergé. D'autres aspects de la laïcité française constituent des points aveugles. Dans trois départements, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, les clergés catholiques, juifs, protestants, luthériens réformés sont payés par l'État et l'école publique comporte des cours de religion. En Guyane, le clergé catholique est rétribué sur fonds publics. La loi Debré permet un financement public des écoles privées sous contrat et contredit le slogan de l'école « gratuite, laïque et obligatoire ». Enfin, contrairement à une croyance tenace, l'État participe davantage, de façon indirecte certes, au financement des cultes en France qu'en Allemagne. Dans ce dernier pays, l'impôt volontaire au profit des églises que prélève la puissance publique rapporte un peu à l'État. En France, l'abattement fiscal de 66% consenti pour les dons aux associations cultuelles comme à d'autres associations constitue un manque à gagner pour les finances publiques.
Thank you.
Un nouvel humanisme se dessine aujourd'hui. Existe-t-il une spiritualité laïque ?
Les principales religions et spiritualités présentent les mêmes constantes morales fondamentales. Faire le bien, respecter l'autre et le monde. Cependant, la spiritualité est restée prisonnière de la religion. C'est à tort que l'on identifie souvent spiritualité et religion. Une démarche ou une attitude spirituelle sont considérées comme rattachées à une pratique religieuse. Alors que la spiritualité est omniprésente dans notre vie. Nous la retrouvons évidemment dans l'art, mais au-delà, dans toute création, invention ou œuvre. Le travail bien fait de l'artisan, l'éducation des enfants par leurs parents, le partage et la solidarité dans des actions quotidiennes qui rythment la vie. La spiritualité, c'est l'essence même de la vie, comme le sang qui irrigue notre corps. C'est cette partie de nos vies qui nous porte, que nous vivons pleinement dans l'ici et maintenant, en un éternel présent. Ces moments où nous nous sentons complets, où nous n'avons besoin de rien d'autre que d'être là et de vivre dans l'amour de tout et de tous. La spiritualité est également associée à la profonde connaissance de soi, celle du philosophe, du scientifique ou de tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. Avec la compassion et la tolérance, la connaissance de soi est une des quêtes personnelles les plus captivantes que l'on puisse entreprendre. Elle nous plonge en des lieux et en des temps que l'on découvre progressivement, où se construit l'espoir du changement et du dépassement de soi, conduisant à la sérénité, à l'ouverture à l'autre, à la sagesse, à l'amour fraternel. Un amour dont on ne peut plus se passer une fois que nous l'avons rencontré, et pourtant distinct de la religion. Comme le dit Mathieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain et interprète du Dalai Lama, de plus en plus de gens n'entretiennent plus le moindre rapport avec la religion de leurs ancêtres. Les religions, elles, ne sont pas obligatoires. On peut vivre et bien vivre sans elles. L'amour, en revanche, on ne peut pas s'en passer. Ce serait une erreur de confondre laïcité et esprit anti-religieux. En réalité, les religions recherchent, en partie, le même but que l'humanisme laïque. Ce sont les mêmes qualités, mais en plus vaste. L'important est d'apprendre à vivre avec les autres, à tolérer les différences, à porter secours à celui qui est dans le besoin. Bref, se mettre d'accord sur une éthique, une morale, tolérance, compassion, vérité, assistance bienfaisante, altruisme et amour fraternel me semblent ainsi confondus dans une même approche du respect de l'homme et de la vie. Une spiritualité sans Dieu représente-t-elle une base solide et suffisante pour organiser la vie de manière constructive et harmonieuse? C'est le fondement et le sens de la conduite de la vie de nombreux scientifiques. Pour eux, religion et spiritualité ne sont pas synonymes. Nous avons été habitués pendant 20 siècles d'Occident chrétien à ce que la seule spiritualité socialement disponible soit une religion, au sens occidental du terme, c'est-à-dire une croyance en un Dieu. Nous avons donc fini par croire que les mots religion et spiritualité étaient synonymes. Il n'en est rien. Il suffit, pour s'en rendre compte, de prendre un peu de recul, aussi bien dans le temps, du côté des sagesses antiques, que dans l'espace, du côté des sagesses orientales, spécialement bouddhistes ou taoïstes. On découvre vite qu'il existe d'immenses spiritualités sans croyance en un dieu ou en une transcendance. Nous les appelons spiritualité de l'immanence. Nous pouvons rester attachés à la morale des évangiles, au respect de leurs enseignements, à leur vision du monde et des hommes, tout en se rapprochant du bouddhisme et du taoïsme, plus en phase avec une certaine conception de la spiritualité, pour la simple raison que toutes ces traditions ne font aucune référence à quelque dieu que ce soit. La spiritualité laïque constitue un puissant atout pour vivre sa vie en harmonie avec les autres et avec son environnement. C'est une démarche existentielle, un travail sur soi, indépendant de toutes les institutions religieuses. Cette spiritualité nous amène à une meilleure perception de la réalité, à une conscience plus ouverte sur l'humain au sein de son écosystème physique, psychologique, social et moral. C'est cette interdépendance permanente avec la vie qui nous entoure qui nous permet de trouver dans le quotidien la motivation pour construire sa vie en lui donnant du sens et en organisant son destin. Sortons des oppositions stériles pour inventer une alliance nouvelle et possible entre l'individu et le collectif, entre le singulier et le commun. Faisons confiance aux individus et à leur capacité pour puiser dans leur dimension particulière les références communes et universelles qui unissent la communauté humaine. La laïcité, qui est d'abord une liberté publique, garantit la liberté de conscience. Elle est le cadre par excellence qui permet de faire vivre et d'articuler cette diversité des cultures, des croyances et des convictions avec des institutions communes sur la base du respect des droits de l'homme. Au-delà de la nécessaire séparation des églises et de l'État, elle engage les différentes cultures à se reconnaître réciproquement. Elle exige le respect de chacun et permet la rencontre de l'autre. Ce sont les deux visages d'une fraternité éprouvée qui fonde l'expérience de notre commune humanité. La laïcité est un des quatre piliers sur lesquels s'appuie notre identité, avec l'égalité, bien sûr, la langue française et la mémoire. Ces quatre piliers sont les produits de notre histoire. Ils ont résisté à de nombreuses contestations et turbulences, aux changements de gouvernement, de constitution, de régime politique. Ils constituent un code sociopolitique de la France pour les Français et aux yeux du monde. Ils sont autant une référence qu'un programme d'action jamais achevé, toujours à réaliser, notamment pour l'égalité. Ils sont donc des facteurs d'unification et de transformation qui donnent du sens à notre République.
Avant de nous quitter, nous vous offrons un dernier morceau de piano magnifiquement interprété par Marc Vella.
Cet entretien a été réalisé dans les locaux de Radio 4 à Villeneuve-sur-Lot. Les textes sont de Marianne Prost et Patrick Figeac. Un grand merci à Marc Vella. Les musiques que vous avez entendues sont extraites de son CD « La route de soie ». La mise en onde et la réalisation technique ont été assurées par Vincent Pérez et Patrick Figeac. À très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.